Il est 20h passé de 26 secondes, vous écoutez Sine Qua Non sur Radio Campus Paris 93.9 FM pour la première fois en direct.
Sine Qua Non, le rendez-vous cinéma de Radio Campus Paris. Un vendredi par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Bonsoir et bienvenue dans Sine Qua Non, l'émission de cinéma de Radio Campus Paris qui vous fait découvrir chaque mois l'œuvre d'une ou d'un cinéaste à l'occasion d'une rétrospective ayant eu lieu récemment ou étant en cours à Paris et en Ile-de-France. Pour ce déjà cinquième épisode, nous sommes en direct pour la première fois et allons vous parler de la 12e édition du Festival de la Cinémathèque française et en particulier de l'œuvre de Suzanne Seidelmann qui était l'invitée d'honneur de ce festival. Cette 12e édition a eu lieu du 5 au 9 mars dernier, au programme de nombreux films de toutes les époques, au sein de la Cinémathèque française, mais aussi dans plusieurs cinémas partenaires de Paris et d'Île-de-France, pour des séances hors les murs. L'occasion pour nous notamment de découvrir 4 longs-métrages de Suzanne Seidelmann donc. Ce soir, un programme légèrement différent d'habitude, puisqu'il s'agit d'une édition spéciale Festival de la Cinémathèque. Nous commencerons par présenter Suzanne Seidelmann et son œuvre, comme d'habitude, puis nous nous concentrerons sur un de ses films, Smithereens, son premier et son meilleur d'après nous. Après quoi, nous enchaînerons directement sur la chronique de David, avant de conclure en revenant sur le festival en entier et en présentant chacune et chacun le film qui nous a le plus marqué du festival. Je suis Grégoire et j'ai le plaisir d'être accompagné pour ce beau programme par David. Bonsoir David.
Bonsoir à tous.
Par Juliette. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Grégoire et bonsoir à toutes et tous.
Et par Suzanne. Bonsoir Suzanne.
Bonsoir tout le monde.
Ce soir, exceptionnellement, je mènerai la chronique moi-même et ce sera l'occasion de discuter de la représentation de l'esclavage dans le cinéma français en écho à un film marquant de la programmation du Festival de la Cinémathèque. Alors j'espère qu'il vous tarde, n'attendons plus, Sine Qua Non, c'est parti.
Sine Qua Non, le rendez-vous cinéma de Radio Campus Paris. Un vendredi par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Alors David, je meurs d'envie d'en apprendre plus sur Suzanne Seidelmann. Veux-tu bien nous présenter sa vie, son œuvre ?
Mais bien sûr. Comme tu disais, Grégoire, c'est à l'occasion de sa courte rétro de 4 films, 4 longs métrages, et de sa masterclass aussi, et de sa carte blanche de programmation à la Cinémathèque dans le cadre du festival, début mars, qu'on va pouvoir venir sur son cas. Donc, Suzanne Seidelmann, c'est une réalisatrice états-unienne vivante, et on va essayer de vous raconter quelques petites choses intéressantes sur cette personne. Elle est née en 1952 en Pennsylvanie, c'est un état de la côte est des États-Unis, et elle a réalisé en tout 6 à 9 longs métrages en fonction de ce qu'on considère comme des longs métrages, dont 4 étaient présentés cette fois-ci. On peut noter également que dans son parcours qu'elle n'est pas ici du milieu du cinéma et qu'elle monte de sa Pennsylvanie natale à New York pour des études d'abord de mode et très vite de cinéma à la prestigieuse New York University. Et c'est aussi à New York qu'elle tourne ses premiers cours et son premier long métrage, très imprégné de cette atmosphère new-yorkaise qu'elle connaît à l'époque de la fin des années 70. Premier long métrage, Smithereens. Cette ville de New York, elle va la suivre puisqu'elle est le théâtre de nombre de ses longs métrages dans la suite de sa carrière. Comme elle le dit elle-même, elle fait des films un peu, et notamment son premier, dans le siège d'un cinéma no-wave et dans le monde post-punk du New York décadent et radical de la fin des années 70. Et donc son premier film, Smithereens, il a imprégné cette atmosphère-là, et c'est un premier film qui est d'ailleurs remarqué pour son originalité et cette atmosphère new-yorkaise. Le succès critique de ce film va la faire rencontrer l'industrie hollywoodienne qui lui permet de réaliser un deuxième film qui a un grand succès, qui est devenu même culte, qui s'appelle Recherche Suzanne désespérément avec Madonna, sorti en 1985.
Seulement 4 films étaient programmés au festival, est-ce que c'était une rétrospective intégrale de son œuvre ?
Bonne question Grégoire, c'est pas vraiment une intégrale, mais on pourrait dire que c'est une intégrale de Suzanne Seidelmann mainstream. C'est-à-dire qu'après le film sur Madonna, par exemple, elle enchaîne encore 2 productions hollywoodiennes commerciales qu'on a pu également voir, que sont She Devil, la Diable, et Making Mr. Right, donc vers la fin des années 80. Making Mr. Right, la femme crée l'homme parfait. Ce sont des grosses pâtisseries pop très 80s à mon avis. Et ces films qui sont de relatifs échecs commerciaux malgré des castings de premier plan comme du coup Meryl Streep dans She Devil et John Malkovich dans Making Mr. Right. Ben du coup, c'est, voilà, suite à ces semi-échecs commerciaux et dans la dynamique aussi de crise que connaît l'industrie à cette époque-là et jusqu'à aujourd'hui, elle se tourne en partie vers la télévision et pour laquelle elle réalise notamment, à noter, hein, le pilote et quelques épisodes de la première saison de la série Sex and the City, série on ne peut plus new-yorkaise, voilà, s'il en est. Alors jusqu'à aujourd'hui, elle a continué à réaliser quelques longs-métrages en fait, ou téléfilms ou à diffusion limitée. Et à noter par exemple en 2013 de Hot Flashes avec des stars oubliées des années 80 comme Brooke Shields du Lagon Bleu et Dari Lana qui joue dans une équipe de basket de quinquagénaire pour financer la lutte contre le cancer du sein.
Est-ce qu'une thématique te semble se dégager en particulier de son œuvre ?
Bah, écoutons peut-être tout de suite Susan Sidelman parler de son œuvre lorsqu'elle est interrogée sur les actrices des années 30 que sont Rosalind Russell et Katharine Hepburn.
Oh, absolutely, because women were great.
Absolument. Screwball comedies gave women a chance fantastiques. To be funny, et la sassy, screwball comedy, ça permettait aux femmes de se déchaîner un peu, d'entamer des querelles avec l'acteur qui jouait le premier rôle, et souvent d'être plus maligne que l'homme dans le film. Dans les années 50, la femme finissait toujours par retourner à la chambre ou à la cuisine.
Et alors c'était Susan Sidelman qui, dans Plan Large sur France Culture, une émission qu'on aime bien, c'était cette année à l'occasion du coup de la rétro. Donc le cinéma de Susan Sidelman, il se caractérise en premier lieu par un goût pour les protagonistes féminines et il veut s'inscrire dans la continuité avec le Hollywood classique comme elle vient de le dire. Notamment les films de comédie. Elle a utilisé le mot de screwball et peut-être qu'on y reviendra plus tard dans l'émission. Donc elle cite les grandes actrices des années 30 comme des modèles et des inspirations pour son œuvre, à savoir des personnages exubérants, anticonformistes et parfois punk. Et donc une première idée qu'elle revendique pour son cinéma, c'est cette aspiration féministe de ce qu'elle fait. Une deuxième idée peut-être qui émerge, comme je le disais plus tôt, c'est que c'est une provinciale des États-Unis qui est arrivée à New York. Et donc comme toute extérieure à cette ville, elle est fascinée par cette ville fascinante qu'elle aime beaucoup filmer. Et de son underground décadent dans Smithereens par exemple, à son kitsch très 80s aussi dans She Devil. Et on va retrouver New York du coup tout de suite avec Smithereens.
Absolument. Merci beaucoup David pour cette introduction. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur le parcours et la filmographie de Susan Sidelman, passons à notre premier focus de la soirée qui est donc justement, comme tu viens de le dire, Smithereens.
Sine qua non, le rendez-vous cinéma de Radio Campus Paris. Un vendredi par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Vous écoutez Sine qua non, nous sommes en direct et discutons ce soir de l'œuvre de Susan Sidelman et de la 12e édition du Festival de la Cinémathèque Française. On va maintenant se concentrer donc sur Smithereens, le premier long métrage de Susan Sidelman, et pour cela, on t'écoute Juliette.
Smithereens, en effet, donc son premier long métrage dont le titre signifie « en lambeaux » ou encore « éclaté en mille morceaux ». Film que Susan Sidelman a financé avec l'argent que sa famille lui avait mis de côté pour son mariage, et qui sort, comme on l'a dit précédemment, en 1982. Et comme tu le disais David, a été sélectionné en compétition officielle à Cannes la même année. On y suit l'histoire de Vren, W-R-E-N, une vingtenaire qui navigue dans le New York des années 80, précisément dans le quartier du Lower East Side, qui était à l'époque le cœur de la culture underground et du courant No Wave.
Qu'est-ce que c'est la No Wave ?
Alors, la No Wave, qu'on traduirait par « sans vague » ou « aucune vague », c'est un courant artistique né dans ce quartier du Lower East Side à New York, au début des années 80, qui se place en opposition avec la New Wave, donc le courant qui l'avait précédé. Et c'est un courant qui est surtout lié au domaine musical contemporain, donc plus au genre du rock et du jazz, où les artistes prônaient l'improvisation, l'affranchissement des normes de composition. Et c'est un courant expérimental, pour résumer, qui attire les artistes de l'avant-garde new-yorkaise. Et c'est d'ailleurs dans ce Lower East Side que Susan Sidelman elle a vécu pendant ses études de cinéma. Et à l'époque, et on le voit d'ailleurs dans le film qui revêt là un aspect quasi documentaire, c'est un quartier qui est encore assez mal famé par rapport à maintenant, avec ces rues qui sont très souvent taguées, où on trouve des poubelles par terre, et où on croise des artistes fauchés, des prostituées, des macs, une jeunesse punk un peu dépravée et des familles d'ouvriers. Vren, donc la protagoniste du film, elle tente d'y trouver sa place et on comprend vite qu'elle est elle-même fauchée parce qu'assez tôt dans le film, elle se fait mettre dehors par sa propriétaire parce qu'elle avait 4 mois de loyer en retard. Et donc elle se retrouve livrée à elle-même dans les rues, ses sacs de vêtements à la main et en quête d'un endroit où dormir. Un endroit qu'elle trouvera dans les bras de deux hommes bien différents. Donc le premier sera Jim, un rocker fauché et narcissique. Et le deuxième, Paul, un provincial au cœur brisé, un dessinateur, fauché lui aussi, qui vit dans un van garé sur un terrain vague. Vren, elle rêve de percer en tant que manager de groupe ou même en tant que musicienne, on sait pas trop. Mais par contre, ce qu'on comprend très vite, c'est qu'elle-même est convaincue qu'elle est quelqu'un et qu'elle cherche à le prouver au monde. Et perpétuellement, et c'est ce qui est illustré dès le début du film, où on la voit déambuler entre le métro et les rues, et on la voit coller où bon lui semble des affichettes d'elle, comme des tracts pour un concert, sauf que là, c'est juste son image à elle, il n'y a rien d'autre dessus. Et tout au long du film, d'ailleurs, elle va laisser son image derrière elle, donc ses affichettes ou même des photos qu'elle prend. Et dans une interview au Metrograph que Susan Seidelman donne, elle répond à la journaliste Willow Kathleen MacLay, qui lui fait remarquer qu'elle avait tendance à laisser la caméra s'attarder sur le visage de Vren, bien que l'action de la scène soit terminée.
En ce qui concerne la caméra subjective, il s'agissait de faire entrer le spectateur dans son monde, car quand vous vous attardez sur un personnage, le spectateur est instantanément plongé dans sa vie intérieure. Je racontais cette histoire à travers les yeux de Ren et son énergie, car c'est un personnage toujours en mouvement. Elle s'accroche constamment à une personne après l'autre, essayant de trouver un endroit où vivre, comment vivre, qui elle veut être, et essayant de signifier au monde qu'elle existe.
Merci Suzanne pour cette lecture et j'ai choisi cet extrait parce que je trouve que c'est justement à cet endroit que le film réussit, et c'est-à-dire dans la mise en scène en fait d'un récit uniquement subjectif, donc de Vren, et ce sans l'utilisation de moyens explicites comme une voix off ou une caméra placée à hauteur de tête qui pourrait être en vision subjective ou non. En fait, dans le film, on est plutôt tenu à distance, à petite distance, mais on voit souvent Vren en pied. Elle est en train de marcher, ou elle est de face, de profil, de dos, et on est en quelque sorte ballotté à ses côtés dans les rues. On a aussi des gros plans, comme elle le mentionnait dans cette interview, mais on est d'une autre manière tenu à distance, là aussi, plus par le jeu de l'actrice, parce qu'elle est tout en saute d'humeur, mou, assez boudeuse, et elle prend des décisions qui semblent uniquement gouvernées par des émotions fortes. Et donc on est un peu forcément mis à distance par ce comportement erratique qui mène souvent aussi à une forme d'autodestruction. Et moi j'ai particulièrement aimé justement cette ambivalence entre la familiarité créée par le fait de suivre ce même personnage dans tout le film, et en même temps contrebalancé par ce sentiment d'étrangeté qui provient de la distance que la mise en scène entretient entre nous et la protagoniste.
Est-ce qu'il y a une autre qualité que tu trouves au film ?
En effet, oui. c'est sa grande vitalité. Parce que je trouve que dans le film, tout est... Enfin, la protagoniste est tout à peu près est en mouvement. Tout est animé par une sorte de sentiment d'urgence à vivre globalement, mais qui est aussi dû au mode de narration qui est très dynamique et en fait qui repose sur l'enchaînement d'événements. Il n'y a pas de pause dans ce qui arrive à Vren, elle est tout le temps en train de faire quelque chose, d'aller d'un endroit à un autre. Et cette atmosphère d'urgence, je pense qu'il faut aussi la relier au fait que ce soit justement le premier film de Seidelman, et donc un film qu'elle réalise quand elle était elle aussi jeune et en train de chercher sa voie, se faire une place, et même avec le peu de moyens qu'elle avait. Et je trouve même que c'est un peu un archétype de premier film, à savoir un objet imparfait à plein d'égards, et qui tient plus parfois de l'ordre de l'exercice formel ou narratif que d'un objet complet et longuement pensé. Mais c'est aussi ce qui le rend intéressant pour son public. Et c'est du coup une œuvre que je trouve est plus proche de nous parce qu'on sent une certaine authenticité.
Merci Juliette pour tous ces éléments sur Smithereens. Suzanne, David, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ?
Merci en effet Juliette, si je veux être tout à fait honnête, moi sur Smithereens je suis pas entièrement convaincu, mais ça reste mon Susan Seidelman préféré. Mais même Smithereens en fait ne marche pas forcément pour moi, et ça va peut-être se relier à ce que tu disais Juliette, c'est notamment à cause de ce personnage auquel je crois pas forcément, à savoir que je le trouve un peu superficiel, et à mes yeux Vren du coup elle a pas vraiment de consistance, j'arrive pas à saisir sa logique interne. Alors je sais que c'est une paumée, voilà, qui du coup a des réactions, des émotions fortes et contradictoires, hein, voilà, mais j'arrive pas du coup à saisir sa logique interne et à comprendre ce qui se passe, et j'y vois du coup quelque chose de plus, enfin il y a un peu d'ambiance de New York que j'aime bien, mais voilà, une narration décousue, un personnage que je mets en lien d'ailleurs avec Suzanne dans Recherche Suzanne désespérément, qui est joué par Madonna, qui est un personnage similaire à Vren et qui pourrait être Vren quelques années plus tard aussi.
Qu'est-ce que tu en penses, Suzanne ?
Oui, alors, que dire ? Moi, j'ai plutôt apprécié quand même mon expérience du film. Mais c'est vrai que, en fait, je me faisais la réflexion que j'ai l'impression que Suzanne Saldanha soigne assez ses scènes introductives pour introduire ses personnages. Voilà, en quelques traits, elle dresse un peu une ambiance. Dans le cas de Smithereens, c'est Ren qui a des espèces de grosses lunettes de soleil beaucoup trop grandes. Et puis, comme tu disais, Juliette, qui imprime des tracts à son effigie. Et qui a un truc hyper rigolo. Et on a l'impression que ça va nous emmener dans un certain ton un peu impertinent, joyeux. Il y a ça dans Recherche Suzanne d'Espériment. Suzanne, on la voit, par exemple, se sécher des aisselles non épilées au sèche-main. Enfin, il y a en fait quelques éléments comme ça. Et le troisième film que j'ai vu de Silent Man, qui est La femme créa l'homme parfait, voilà. Où Frankie, on la voit un peu se maquiller n'importe comment dans sa voiture. Donc voilà, un peu quelques éléments, ça donne le ton un peu de personnage un peu haut en couleur, assez libre comme ça. Et c'est vrai que dans le cas de Smithereens, il y a un côté un peu déceptif. Mais pourquoi ? En fait, moi, c'est pas grave. Comment dire ? Finalement, c'est beaucoup moins léger que ce à quoi je m'attendais. Et en fait, il y a un truc assez tragique dans le dessin de ce personnage. Mais pourquoi pas, en fait avoir un truc beaucoup plus dur, mais peut-être tu veux réagir. Ouais.
Oui, je suis d'accord avec toi que le personnage est tragique. Et d'ailleurs, donc on l'a vu dans le cadre du festival. Et comme Suzanne Seidelman était l'invitée d'honneur, elle introduisait le film. Et quand elle parlait du film, elle annonçait, attention, vous allez voir, Vren, c'est un personnage assez narcissique. Enfin, elle annonçait un personnage détestable. Et au contraire, moi, ce qui m'a plu dans ce film, c'est son côté tragique et le fait qu'on assiste à quelque chose de très pathétique. Quoi. Mmh. Un personnage qui subit quand même énormément de violence. Et donc j'ai été assez surpris et même déçu a posteriori de la façon dont Suzanne Seidelman parlait de son film. Juliette ?
Ouais, je te rejoins sur la partie de... Enfin, sur cette manière que Suzanne Seidelman a de parler de ses films, c'est qu'à chaque fois, c'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression qu'elle tombe à côté. Enfin, que c'est pas ce qu'on reçoit dans l'extrait d'interview que je citais avant. Elle dit que ses plans proches du visage de Vren, ça nous permet d'entrer dans son intériorité et d'après nos retours, c'est pas du tout le cas. En fait, on n'arrive pas à entrer, enfin, on comprend pas trop ce qui la gouverne à part ses émotions. Et du coup, je trouve que c'est dommage. Et je suis d'accord aussi sur le fait que, elle nous a présenté effectivement un personnage narcissique et qu'on n'allait pas du tout apprécier. En fait, enfin, s'il y avait un personnage qu'il fallait décrire comme ça, c'est plutôt Jim qui lui est vraiment détestable et pense qu'à lui plutôt que.
Et Jim, du coup, un amant
le rocker, c'est ça.
Et un terme qui revenait souvent dans ces présentations, c'est le terme de screwball comédie qu'on a cité à un moment de cette émission. Mm. Est-ce que tu peux nous le définir rapidement, Juliette, et peut-être ensuite on discutera de comment est-ce qu'il intervient, comment est-ce qu'il influence Suzanne Seidelman.
Ouais, avec plaisir. Du coup, donc la screwball comédie, c'est un sous-genre de la comédie hollywoodienne des années 30-40. On pourrait traduire screwball par loufoque ou décalé. D'ailleurs, sur la page Wikipédia, c'est comédie loufoque. Voilà. Et donc, ça désigne des comédies qui impliquent souvent des romances où les personnages censés être animés par une tension romantique, on va dire conventionnelle, en fait, ils en sont plutôt dépourvus. Et ça permet de tirer beaucoup de comiques. Et c'est un genre qui se caractérise par son utilisation du comique de gestes, du burlesque, avec des chutes, des corps désarticulés, des grimaces, etc. Et du comique de situation. Et c'est ce que Suzanne Seidelman disait dans Plan Large, elle le répète aussi beaucoup dans ses introductions de films, c'est que dans la screwball, il y a beaucoup de personnages féminins centraux qui sont vraiment singularisés. Elles ne sont pas seulement des femmes ou des filles d'eux, mais elles sont motrices des intrigues et elles font preuve d'une grande autodétermination, elles tiennent tête aux hommes et elles sont vraiment caractérisées. Quoi.
David ? Ouais, je suis vraiment d'accord pour l'influence de la screwball et d'ailleurs même plus dans d'autres films de Suzanne Seidelman que directement dans Smithereens. Je disais Recherche Suzanne désespérément, mais on parlait de She Devil, c'est une vraie comédie des années 80 avec plein de gags burlesques. Elle essaye de s'inscrire comme ça dans cette continuité. Quoi.
Ouais.
Et Making Mr. Right, n'en parlons pas, puisque c'est donc une comédie avec John Malkovich qui joue un robot et c'est vraiment des gags au sens le plus propre du terme. Quoi.
Et du coup, bah, pour rebondir sur ça, par contre, c'est bien qu'elle se revendique de la screwball, je trouve, mais bon, en tant que cinéphile, j'adore la screwball comédie, à savoir ces comédies des années 30, 40 et parfois 50. Et je trouve que dans les films de Susan Sadelman, il n'y a quand même pas la finesse de ce qu'on voit dans cette génération précédente, quoi. Enfin, surtout, She Devil, par exemple, je lisais Patrick Hip-Hop dans l'introduction. Enfin, voilà, faut qu'on sache de quoi on parle aussi. Voilà, c'est un film commercial des années 80 qui aujourd'hui passerait sur une chaîne du câble et voilà, avec formellement et artistiquement l'intérêt est peut-être plus mesuré que pour Smithereens par exemple, quoi. Et
Suzanne, voilà, ouais.
Oui, je pense qu'il y a, en effet, il y a en tout cas un aspect un peu mainstream de son cinéma, mais voilà, peut-être que maintenant on est prévenu, enfin on prévient en tout cas les auditeurs que ça peut être aussi appréciable si on aime ça. Moi je pensais à une scène dans Smithereens qui m'avait un peu fait rire, mais je sais pas si c'est vraiment peut le relier à la screwball comédie, pas forcément, mais en tout cas un espèce de effet de mise en scène assez comique, le moment où on découvre le coloc dans l'appartement.
Oui.
Enfin voilà, et en fait je trouve que parfois elle a des espèces de petits éclairs de mise en scène assez rigolos qui cueillent le spectateur, et en tout cas ça m'a marqué visiblement.
Juliette.
Ouais. Sur le comique aussi. Enfin, c'est vrai que c'est des films mainstream Je voulais dire, moi, qu'on pouvait aussi trouver un certain plaisir. Enfin, quand j'ai vu She Devil et Recherche Suzanne désespérément, c'était un peu comme un plaisir coupable. Enfin, c'est des films quand même que je trouve appréciables parce que c'est très facile de suivre l'intrigue, on est diverti, et je trouve que ça reste quand même un divertissement à voir en salle. En plus, je trouve ça assez chouette et voilà, et ça relève aussi du comique, mais pas du comique de Making Mr. Right, qui était vraiment trop, trop ridicule.
Ouais, un peu lourd.
Et vraiment un peu lourd. Mais dans She Devil, il y a un petit plaisir, et dans Recherche Suzanne aussi, je trouve.
Suzanne, un dernier mot ?
Oui, je veux pas forcément conclure. Enfin, si d'autres gens veulent ajouter des choses aussi, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant pour moi de voir Smithereens et Recherche Suzanne un peu en regard, parce que même s'il y a des choses en commun, en fait, je trouve que Smithereens, tu disais, ça dégage l'énergie d'un premier film, mais il y a un truc assez âpre quand même et assez cruel, enfin, d'un personnage vraiment seul et un peu, comme tu disais, autodestructeur et désespéré. Et je trouve que c'est aussi un peu intéressant à voir, mais ça peut être assez dur comme expérience de spectateur. Enfin, moi, ça a été un peu mon cas. Enfin, on avait un peu vraiment la peine et de voir qu'elle fait un peu tous les mauvais choix.
Ouais. Bah oui, carrément.
Voilà. Et du coup, c'est vrai que Recherche Suzanne, il y a un truc un peu plus léger où on retrouve une figure qui s'en inspire, qui est incarnée par Madonna, mais qui agit plus comme un espèce d'idéal que va poursuivre l'héroïne principale. Et c'est pas forcément révolutionnaire, mais c'est assez sympathique. Après, j'avoue que moi aussi, j'avais un peu été déçue parce que j'avais cru qu'il y aurait une histoire qui allait les faire se rencontrer, faire des choses ensemble. Et finalement, souvent, c'est quand même des personnages assez isolés. Qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions entre des personnages féminins, finalement, alors qu'elles se revendiquent féministes. Donc, c'est aussi intéressant de voir ça.
C'est vrai. C'est une remarque qui s'applique très bien à She Devil aussi, par ailleurs.
Merci à toutes et à tous. C'était intéressant. On va apprendre plein de choses sur Susan Seidelman, Smithereens, le Lower East Side, le Screwball. Et on continue, on espère, d'apprendre plein de choses intéressantes. Juste après une interlude musicale, on se retrouve pour la chronique de David avec un twist. A tout de suite. On vient d'écouter Into the Groove de Madonna, qui est une musique qui apparaît dans Recherche Suzanne Désespérément, où joue donc Madonna, et qui était aussi la musique de la bande-annonce du dernier festival de la Cinémathèque. Donc voilà, ça s'imposait évidemment de la mettre dans cette émission. Et tout de suite, la chronique de David. Ouais.
La chronique de David.
Et non, c'est pas la chronique de David aujourd'hui, comme tu disais Grégoire. Petit twist, c'est toi qui vas nous faire la chronique de David.
Absolument.
Et tu vas nous parler de quoi, Grégoire ?
Je vais vous parler de Tamango, qui est un film du Festival de la Cinémathèque qui m'a particulièrement marqué et qui est à propos de l'esclavage. Donc ça va être aussi l'occasion de parler de la mémoire de l'esclavage et notamment dans le cinéma français.
Ok, super. Bah, à toi, Grégoire.
Donc, en 2024 est sorti le film « Ni chaîne ni maître », qui est le premier film du réalisateur franco-béninois Simon Moutaïrou, qui raconte l'esclavage et le marronnage, c'est-à-dire la fuite d'esclaves hors de la plantation où ils étaient séquestrés à l'île Maurice au XVIIIe siècle. Vous en avez peut-être entendu parler, le film a fait un peu de bruit, il a notamment été salué parce que, enfin, un film français narrait l'esclavage, et notamment la résistance des esclaves, c'est-à-dire donc le marronnage. Thème jusqu'à présent trop marginal dans le cinéma français. Mais qu'en est-il vraiment ? Eh bien, pas de suspense, c'est en effet un thème marginal du cinéma français. Ainsi, sur les 20 dernières années, avant Ni chaîne ni maître donc, on ne peut citer qu'un film français qui traite de l'esclavage et qui a eu un tant soit peu de public. Et il s'agit de Casse-départ de Lionel Stechetti, une comédie de 2011 à propos de laquelle Louis-Georges Thin, président du CRAN, conseil représentatif des associations noires, déclare...
S'il y avait déjà eu 30 films sur l'esclavage, ça ne me gênerait pas. Mais là, c'est comme si le premier film sur l'Holocauste était sur Papa Schultz, une série télé américaine comique sur la Shoah.
Premier film français sur l'esclavage, c'est bien sûr exagéré. Et si nous discutons ce soir de la représentation de l'esclavage dans le cinéma français, c'est pour vous parler en particulier d'un film français oublié, à propos de la traite négrière, qui était programmé au Festival de la Cinémathèque de cette année, Tamango, de John Berry, sorti en 1958. Pour parler de Tamango, commençons par resituer quelques dates de l'histoire française de l'abolition de l'esclavage.
1794, abolition de l'esclavage grâce à la Révolution française. 1802, rétablissement de l'esclavage sous Napoléon. 1815, abolition de la traite négrière mais pas de l'esclavage. Les propriétaires d'esclaves gardent leurs droits sur ces derniers jusqu'à leur mort. 1848, abolition de l'esclavage.
L'histoire de Tamango se situe en 1815, alors donc que la traite négrière vient d'être de nouveau abolie, mais que l'esclavage demeure légal. Il s'agit d'un huis clos sur un négrier clandestin car, aux surprises, du trafic d'esclaves demeurait pour alimenter les plantations, les esclaves étant légalement possédés dès lors que vendus, puisque donc seule la traite était interdite. Donc pour que ce soit bien clair, la traite négrière, il s'agit d'acheter des esclaves donc, en Afrique et de les vendre ensuite dans les plantations. Et donc ce qui a été aboli en 1815, c'est seulement ce commerce-là. Les plantations gardaient le droit de posséder des esclaves. Et donc, il y avait du trafic pour continuer d'alimenter ces plantations. Et donc, en réalité, ça ne changeait pas énormément de choses, à part de rendre illégaux ces négriers, comme donc celui de Tamango. Donc, dans le film, on suit la lutte entre Riker, qui est le capitaine chevronné du négrier, et de Tamango, qui est le leader de fait des esclaves asservis sur le navire, qui cherche à les faire se soulever. Le film est très bien écrit et narre avec beaucoup de finesse tout l'attirail de manipulation dont se servent les blancs négriers sur le bateau pour asservir les noirs, qui sont pourtant en large supériorité numérique. Et le film raconte aussi en miroir toutes les tentatives de Tamango pour faire se soulever ses camarades séquestrés et désespérés. C'est ainsi pour moi un film autant sur l'esclavage que sur la révolution en général. Et d'ailleurs le réalisateur, John Berry, est un réalisateur américain qui a été dénoncé comme communiste sous le macartisme et qui s'est donc retrouvé sur liste noire d'Hollywood. Raison pour laquelle il a réalisé ce film français avec une production franco-italienne. Bon, sachant que de toute manière, le film n'aurait pas pu être réalisé aux États-Unis en raison du code de censure en vigueur à l'époque, qui n'aurait pas accepté les tensions explicites entre blancs et noirs et la violence envers les blancs qui est représentée dans le film. Tamango est adapté d'une nouvelle du même nom de Prosper Mérimée de 1829. Si vous avez bien suivi les dates, vous savez que la nouvelle a été écrite alors que l'esclavage était toujours légal en France et que donc seule la traite négrière était abolie. La nouvelle est d'ailleurs bel et bien abolitionniste, mais aussi largement négrophobe, et le film modernise la nouvelle et lui ôte cette dimension négrophobe.
En plus d'être bien écrit, le film est superbement réalisé. Les acteurs et les actrices, les costumes, les décors sont brillants. Et le film exploite très intelligemment tous les espaces du bateau sur lequel nous sommes en huis clos. Chaque espace est en effet un lieu où se jouent des rapports de force différents. La cale où sont enfermés les esclaves est l'endroit où est fomentée la rébellion. Le pont, qui est l'espace d'interaction entre les blancs et les noirs, est donc l'espace de violence et de lutte. Il y a aussi la loge du capitaine, où un personnage central, dont je ne vous dis pas trop, Aïcha, qui est une esclave contrainte de partager la couche du capitaine, intervient dans un autre genre de rapport de force. S'y ajoutent quelques scènes de maquettes magnifiques et de très belles couleurs, et je pense par exemple que vous vous souviendrez longtemps, comme moi, des yeux bleus perçants de Riker, le capitaine du négrier. Le film a connu un important succès en France métropolitaine à sa sortie avec 2 millions d'entrées. Je précise France métropolitaine car, tenez-vous bien, le film a été interdit à sa sortie dans les colonies françaises, parmi lesquelles j'inclus les actuels territoires et départements d'outre-mer. C'est un film qu'on a beaucoup aimé, vous l'aurez compris, et que nous vous recommandons chaudement. C'est aussi un film précieux puisqu'il œuvre à la mémoire de l'esclavage et de la traite négrière perpétrée par la France, sujet de mémoire bien trop marginalisé au-delà même du cinéma français. Cette question de la mémoire de l'esclavage n'est ressurgé avec ampleur qu'en 1998, à l'occasion des 150 ans de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, grâce à une mobilisation particulièrement forte des associations investies par cette question. Faisons un petit récapitulatif des principales dates de la mémoire institutionnelle française récente de l'esclavage.
1998, 150 ans de l'abolition de l'esclavage en France, mobilisation forte des associations pour la mémoire de l'esclavage, inauguration le 24 avril 1998, d'une sculpture commémorative sur le quai de la Fosse à Nantes, saccagée en quelques jours. 2001, adoption de la loi Taubira, faisant de la France le premier pays à reconnaître l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité. 2004, institution du Comité pour la mémoire de l'esclavage. 2006, institution d'une journée nationale pour la mémoire de l'esclavage fixée au 10 mai. 2012, inauguration du mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes, premier port négrier français. 2015, inauguration du Mémorial ACT, centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage en Guadeloupe.
Voilà, donc on peut évidemment qu'être mortifié de la faiblesse des initiatives institutionnelles de cette mémoire et d'à quel point elles surviennent tard. Il aura quand même fallu attendre 2015 pour qu'un musée d'ampleur dédié à l'esclavage soit inauguré. Terminons cette chronique avec l'aspect le plus tabou de cette question mémorielle, celui de la réparation. Dans la première version de la loi Taubira de 2001, celle donc qui établit l'esclavage comme un crime contre l'humanité, était prévue initialement l'organisation d'un conseil pour déterminer et évaluer les réparations dues par la France aux victimes de l'esclavage, et donc à leurs descendants. Cet aspect n'a pas été retenu et n'aurait jamais, dans les faits, été voté, et pourtant c'est une volonté de nombreuses associations qui considèrent cette réparation comme un aspect indispensable de la mémoire. Ainsi, on peut citer le COFAD, ou Collectif des filles et des fils d'Africains déportés, en référence directe à l'association des Klarsfeld, les filles et fils déportés juifs de France, qui a été fondée en 1997 et dont le site internet, abandonné aujourd'hui, affiche toujours cette note d'intention.
L'indemnisation des Juifs ouvre la voie aux Africains. Cette noble démarche pédagogique des Juifs qui a imposé des réparations matérielles, financières, morales et actes de repentance aux institutions et gouvernements occidentaux doit encourager les peuples noirs, victimes de la traite négrière, de l'esclavage et du travail forcé.
Car en effet, à la suite de la Shoah, des victimes et des familles de victimes ont reçu des indemnités. Par exemple, pour reparler de quelqu'un qu'on aime beaucoup dans cette émission et à qui notre première émission a été consacrée, la mère de Chantal Ackerman, rescapée d'Auschwitz, vivait en partie d'une pension réparation. On entre ici dans des questions vertigineuses. Comment établir le montant de réparation dû à une personne déportée à Auschwitz ? De même pour l'esclavage. Ainsi, Aimé Césaire de dire à propos de l'esclavage, il n'y a pas de réparation possible pour quelque chose d'irréparable et qui n'est pas quantifiable. Ce qui est bien sûr vrai, et pourtant, il faut bien réparer.
Sine qua non. Le rendez-vous cinéma de Radio Campus Paris. Un vendredi par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Voilà, donc c'était une chronique à propos de Tamango. Ouais. Et pour la suite de l'émission, on va revenir sur le festival en général. Donc Tamango, c'est le film qui personnellement m'a le plus marqué. Juliette, Suzanne, David, quels sont les vôtres ?
Suzanne, tu veux commencer ?
Allez, ben moi je peux vous parler de l'autre film que j'ai vu, mis à part les films de Seidelmann, dans le cadre du festival et que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Miroir brisé, qui était donc l'un des trois films de Marlène Goris présentés cette année dans le festival, qui sont ses trois premiers films. Donc avec Miroir brisé, il y avait le premier film qui s'appelle Le silence autour de Christine M, réalisé en 82. Et aussi... Pardon, je sais pas.
Ah, j'ai oublié aussi. C'est pas grave.
Et pardon, un film qui parle de crash aérien. Je vais retrouver.
Peu
je suis
importe.
Désolée, on a changé là. Voilà, bref. Et donc, ce film qui s'appelle Miroir brisé, il a été réalisé en 84. Et il parle. Enfin, il situe dans le milieu du travail du sexe. Et qu'elle prend un peu comme une métaphore de la violence patriarcale, comme un espèce de miroir grossissant. Et ça voilà, suit des personnages qui travaillent du sexe. Et en parallèle, il y a une intrigue un peu. Hitchcockienne en un sens, enfin en tout cas un fil plus de thriller d'un homme qui séquestre et torture des femmes et dont on ne connaît l'identité que par ses gants. Voilà, et c'est. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film, j'avais envie de découvrir les autres que j'ai pas pu faire dans le cadre de ce festival-là, mais j'ai trouvé ça en tout cas très intéressant comme démarche. C'est une réalisatrice qui est de la même génération que Seidelmann, mais c'est assez différent. Elle-même avait écrit son premier film en espérant que Chantal Akerman le réalise parce qu'elle n'avait pas d'expérience dans la réalisation. Mais Chantal Akerman l'a encouragée à le faire elle-même et elle a bien fait. Donc voilà mon conseil.
Super. Marlène Goris, du coup, c'est ça ?
Absolument.
Ok, merci.
Qui a envie de prendre la suite, Juliette ?
Allez. Moi, le film que j'ai le plus aimé dans le festival, c'est La Chatte à deux têtes de Jacques Nolot. Donc, c'est un film français sorti en 2001. Qui était dans la section Restauration et Incunable du festival, qui est une section qui est reconduite chaque année au sein de la programmation et qui fait la part belle à des films de patrimoine qui ont fait l'objet d'une restauration récente ou pour d'autres qui ont été parfois retrouvés miraculeusement, comme c'était le cas cette année avec La Tache de sang de John Ford. Et La Chatte à deux têtes, ça se situe dans un cinéma porno près de la place de Clichy dans le 17e arrondissement de Paris, donc un cinéma qui a fermé depuis. Et pendant toute une journée, en fait, on suit la vie du cinéma, on est au guichet et dans la salle dans laquelle il se passe autant de choses entre les différents spectateurs que sur l'écran qu'ils fixent, du coup avec plus ou moins d'attention. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est... surtout les dialogues et les très beaux dialogues qui sont portés par Jacques Nolot lui-même et par Vittoria Scognamiglio, je suis désolée, qui est la guichetière. Et c'est des dialogues qui parlent d'amour, de sexe, de vieillissement, de la sagesse acquise par l'expérience. Et c'est un ton, le ton du film, il est tendre, il est drôle et parfois beaucoup plus âpre. Et je trouve qu'on est, vraiment toujours dans plein d'émotions différentes, mais que c'est toujours quelque chose de très beau. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Si vous le voyez passer dans sa belle version restaurée, je vous encourage à aller le voir. Donc, La Chatte à deux têtes de Jacques Nolot.
Un film que j'ai beaucoup aimé moi aussi. Toi, David, c'est quoi le film qui t'a marqué du festival ?
La Chatte à deux têtes, j'ai bien aimé aussi, en vrai. Hein. Et, mais tu l'as pris. Et Jacques Nolot est très beau comme acteur, je trouve, aussi dans le film. Enfin,
oui.
Voilà. Je veux pas parler
très
de ça.
Très beau
du
quand
coup.
Il présente ses films.
Et aussi, oui, il était là pour présenter le film, donc c'était super. J'ai un peu triché. Je me suis dit, je vais vous parler de des sections muettes du festival et pas de mon film préféré. Comme ça fait plein de films dans le même truc. Voilà. Et la sélection de cette année, elle était assez riche et diverse parce que, à la fois dans la section dont tu parlais, Restauration Incunable, il y avait des restaurations de films muets de grands classiques comme Faust de Murnau, qui est un film de l'époque expressionniste allemande, donc des années 20, un grand classique du muet. Et il y avait aussi le plus beau film du festival, comme tu l'as dit, La Tache de sang de John Ford, un film retrouvé. Mais on a aussi surtout eu la chance d'avoir une section dédiée au cinéma muet géorgien, donc géorgien du pays, la Géorgie dans le Caucase. C'est un pays en fait qui a une riche histoire cinématographique et qui est intimement lié en fait à l'industrialisation relativement forte et rapide du pays dès la fin du 19e siècle, et notamment à Tbilissi ou Tiflis à l'époque, la capitale. Et c'était du coup cet endroit, cette ville-là, était une place culturelle de premier plan au sein de l'Empire russe d'abord, puis au sein d'une république indépendante géorgienne qui a existé après la révolution de 1917, et puis sous le giron russe en tant que république socialiste soviétique sous l'URSS, quoi. Et tout du long du 20e siècle, et aussi sous l'URSS, du coup, cette ville, elle a abrité les deuxièmes plus importants studios du RSS après ceux de Moscou. Et on tenait d'ailleurs les studios de Tbilissi comme culturellement plus raffinés, mais aussi plus libres du fait de la grande distance de Moscou. Voilà, une spécificité géorgienne, quoi. Donc les films qu'on a pu voir, il y en avait 5. Moi, j'en ai vu 3 en tout. Il s'appelle notamment Hors du chemin, point d'exclamation, de Mikhail Tchaoureli. À qui la faute, point d'interrogation, de Alexandre Tsutsuneva. Et puis aussi Ma grand-mère, de Kota Mikhaberidze. Et ces films-là, du coup, donc voilà, c'est des films muets géorgiens des années 20. Ils s'inscrivent quand même dans le monde russe, entre guillemets, dans le sens où ils se font en parallèle et en dialogue avec les célèbres avant-gardes soviétiques qu'on connaît souvent plus comme Sergei Eisenstein, qui réalise Le Cuirassé Potemkin. Et des trois films, du coup, que personnellement j'ai vus, j'identifierais un peu des dynamiques principales du cinéma géorgien muet, à savoir, donc, comme je disais, l'évidente inscription dans le sillage du cinéma d'avant-garde soviétique, avec des cadrages si caractéristiques de cette école du muet, le montage visible et audacieux, c'est très expérimental. Et puis, deuxièmement, peut-être une forme de caractère géorgien des décors et des paysages, qui, pour leur coup, par leur bucolique, un peu, il y a des montagnes, des belles campagnes et tout, tranche avec les plus grises villes qu'on voyait d'Ukraine un peu et de Russie, qu'on voyait dans les films d'actualité russes de l'époque, de Dziga Vertov, entre autres. Et mon film préféré là-dedans, c'est Ma grand-mère de Kotami Kaberidze, qui allie dessin animé, décor futuriste de studio, des rues de BBC, plein d'autres trucs. Voilà, enfin, intéressez-vous au cinéma muet, il n'y a que des belles choses à voir et à découvrir.
Et au-delà du cinéma muet, c'était un très beau festival auquel on a toutes et tous les quatre étaient très contents d'aller. J'ai malheureusement pas vu Miroir brisé, mais j'ai vu La Chatte à deux têtes et La Tache de sang, par exemple, que j'ai beaucoup aimé. Donc ouais, très très chouette. Et voilà, pour les années à venir, on recommande tout à fait.
Oui, on retient.
Chers amis, il est déjà presque l'heure de nous quitter. Et comme vous le savez, maintenant, il n'y a deux bonnes compagnies qui ne se quittent. Et donc, on va parler de notre prochaine émission. Elle sera diffusée le 25 avril à 20h, en direct de nouveau. Et elle portera sur la rétrospective Sarah Maldoror au Centre Pompidou, en écho à l'exposition Paris Noir. L'exposition Paris Noir, c'est une exposition donc, au Centre Pompidou aussi, qui raconte la scène artistique, intellectuelle et politique française noire entre 1950 et 2000. Elle a lieu depuis le 19 mars et jusqu'au 30 juin prochain. Et la rétrospective Sarah Maldoror, qui est donc une réalisatrice noire française, a lieu du 3 au 7 avril au Centre Pompidou. Pour celles et ceux qui s'interrogent, le Centre Pompidou ferme progressivement. Et donc si une partie est déjà en travaux, les cinémas et l'étage de l'exposition demeurent accessibles. Personnellement, cette exposition et cette rétrospective me font très envie, donc j'espère vous y voir. Et on vous remercie d'avoir écouté Sine Qua Non sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Comme cette fois-ci, c'était la première en direct, c'est d'ailleurs, et que c'est maintenant la cinquième édition, c'est l'occasion de vous remercier en particulier à toutes celles qui nous écoutent depuis le début, qui nous font des retours. On est très contents. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire à sinequanon@radiocampusparis.org.
Et sur tous les réseaux sociaux.
Voilà, absolument. On lit tout ce qu'on reçoit, ça nous fait toujours très plaisir. Et voilà, il est temps de se dire bonne soirée. Donc bonsoir Juliette.
Bonsoir Grégoire. Bonsoir à tous et toutes.
Bonsoir Suzanne.
Bonsoir, et peut-être tu vas nous dire ce qu'on peut écouter pour finir l'émission aussi.
Oui,
aussi,
tout à fait. Bonsoir David.
Salut tout le monde aussi. Et merci Suzanne pour la réalisation.
Et pour finir, donc, une musique de K, un rappeur de New York, qui s'appelle I Need All That et qui parle de réparation.
We see them. And they see us. What faces me has never frightened me.
It's pity me large in a city of Dodge. We're not dodging. Some sung bars to become stars. I did it to stop starving. How they done us was fungus, hung us. None of us got pardoned. If action wasn't basking the scoop, we was youth out robbing. Took obvious toll, mind, body, and soul. That's where the scars been. Not blessed as every source necessary when the guards sin. Just missed it, being that statistic I was doomed to be. Hearts far too heavy to make light and try to humor me. I'm sad and trash, ain't handle class, way before the truancy. Fighting the night, dragging the magnum, Finney's try to snore me. Every day we face the waste, it's disgrace with the suicide. Pray I ain't back at hard knocks, try and get a new degree. Try to provide fruitfully for those few that rule for me. This music used to be how I got my news as youth, truthfully. Back when they did it for the good of the hood, exclusively. You can make it from the basement, the proof is me. I want back everything they took. My culture, my music, my look. They rock how we greet, how we speak, how we cook. I want back everything they stole. My braids, my waves, my goal. My chance, my dance, my stance, my soul. I want back everything they claim. My glory, my story, my reign. My divas, my Jesus, my creed is my name. I want back everything they scam. My rights, my spice, my land. My hide, my pride, my tribe, my fam.
can't fall back, I need all that.
You not listening, that's what it is.
Enemy to many, wasn't equipped to be a friend. Don't fear death, cause every peer left I'll get to see again. Long as we gel, I don't care if we in hell or we ascend. What I cook's a guidebook to how to be as men. What you pop is impossible, never been to true beef. Every gangsta I know even died, I turned a new leaf. We rule the day, we pray the cruel streets. Now it's due east, life-changing moments with dangerous opponents. Every few weeks, need true peace. We're better gates, predicates who eats. Plus the new bees niche, be thinking they zoo keeps. I want back everything they took. My culture, my music, my look. They rocked how we greet, how we speak, how we cook. I want back everything they stole. My braids, my waves, my gold. My chance, my dance, my stance, my soul. I want back everything they claim. My glory, my story, my reign. My divas, my Jesus, my creed is my name. I want back everything they scam. My rights, my spice, my land. My hide, my pride, my tribe, my fam. I can't fall back, I need all that. I can't fall back, I need all that. Fall back, I need all that. All that. I can't fall back, I need all that.
I was needed. I could sing to help my people. And that became the mainstay of my life.